on a choisi d'y être, et du coup, a priori, on donne le sentiment, ces environnements comme Facebook, ça, donnent le sentiment que vous êtes chez vous. C'est un périmètre. Donc déjà, c'est souvent à l'heure, parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux. Vous êtes chez Facebook. Et là, il y a déjà une confusion qui est faite dès le départ, parce que effectivement, voilà, vous êtes dans un environnement public. Il y a des espaces qui ont été déterminés, mais en fait, vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à comme à aucun moment on le signifie, sauf par petites alertes en disant vous acceptez les cookies ou je sais pas quoi, souvent la confusion est faite et les gens dévoilent sur ces réseaux parfois beaucoup plus que ce qu'ils voudraient dévoiler. Vous avez, pour ceux qui ont peut-être expérimenté les réseaux sociaux, eu la malheureuse expérience de partager involontairement des informations privées. C'est très très simple. L'erreur dans ce sens-là, elle est beaucoup plus facile que dans l'autre, c'est-à-dire souvent c'est plus facile de libérer des informations sur soi-même, sur les réseaux sociaux, que de les protéger. C'est-à-dire qu'il faut bien souvent, alors la politique de Facebook a sur ce point-là un peu évolué récemment, mais longtemps, en gros, une information qu'on diffusait sur un réseau social était d'abord publique et il fallait faire une démarche volontaire pour pouvoir la privatiser et la réserver qu'à un groupe de ses amis. Donc ça, pour moi, ça me questionne beaucoup, c'est-à-dire que on sait très bien que l'information privée, quand on ouvre la porte de sa maison, en général, on choisit de le faire. C'est-à-dire qu'on fait un geste volontaire pour pouvoir révéler son intimité sur certains réseaux sociaux. On doit d'abord fermer. En gros, la porte elle est ouverte et puis on doit d'abord fermer, ne pas oublier de fermer la porte pour préserver son intimité. Et ça, en tout cas, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge sur le sens que ça. Sur l'intérêt que ça a, en fait. J'ai l'impression que la politique de certains réseaux sociaux, elle est quand même de plus vous en dites sur vous-même, plus vous en révélez sur vous-même, plus finalement, quelque part, moi, en tant qu'entreprise, j'en tire un bénéfice. Alors, un trait de caractère qu'on a remarqué surtout en ces périodes électorales très denses, je l'ai vraiment constaté ces derniers mois, mais je sais que c'est une tendance qui est lourde et qui vient de loin, c'est l'enfermement communautaire. Alors c'est un grand mot qui a l'air méchant, mais en fait qui a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un réseau social, alors par exemple, je prends Twitter que je connais un peu mieux, vous avez des gens qui... Le fonctionnement de Twitter, c'est que vous montrez, vous exposez à tout le réseau Twitter, et ceux qui sont intéressés par ce que vous présentez viennent vous suivre. Donc, ce qui fait que ce n'est pas vous qui choisissez les gens qui vont vous suivre, c'est pas vos amis, c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous donnez à voir. Le truc, c'est que du coup, on se tourne plus naturellement vers des discours, vers vers des révélations impersonnelles, parce que souvent c'est quand même des prises de position personnelles qui vont dans notre sens. Et plus on est présent, on suit des personnalités qui vont nous intéresser, plus le réseau social va nous suggérer de nous mettre en lien avec d'autres personnalités qui vont avoir un discours similaire ou une popularité qui est similaire à la personne que vous avez choisi de suivre. Ce qui fait que, involontairement, vous allez être emmené vers des cercles d'intérêt, de comment dire, de d'orientation politique, pour prendre cet exemple-là, qui vont toujours être un peu, qui vont se rapprocher. Et dans ces cercles-là, et c'est là qu'on a que le jeu devient pervers, c'est que c'est un peu à qui le crie le plus fort qui aura la primauté. C'est-à-dire qu'on va retrouver des comportements tout à fait, j'allais dire un peu à contresens de la civilisation, puisque c'est celui qui va crier le plus fort qui va mobiliser le plus de gens autour de lui. Et c'est comme ça même que vous allez exister dans le réseau social. À mon sens, enfin, là encore, c'est mon intuition. Ça va pas dans le bon sens parce que au lieu de mutualiser des idées, eh bien, on se retrouve à communier des idées qui sont véhiculées par des gens qui ont une forte personnalité et qui vont parfois écraser la pensée de gens qui ont peut-être moins d'indépendance d'esprit. Alors, on voit ce phénomène-là, je l'ai vu très fortement, moi, avec la campagne politique, qu'on soit de gauche, de droite, c'était pas ça le problème. Par contre, les haut-parleurs ont pris des positions, un peu masqué devant, protégé, on va dire, parce que on n'est pas physiquement en contact avec les internautes. On entend des propos, on lit des propos, parce que souvent c'est des propos qui sont parfois exceptionnellement forts. C'est-à-dire qu'on s'adresserait pas dans la rue spontanément aux gens en disant qu'est-ce que tu vas soutenir Mélenchon, parce que il y a des propos de sur les réseaux sociaux, en particulier je pense à Twitter, qui sont d'une violence, d'une virulence qui n'a aucune, qui ne ressemble à rien dans la société. Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des discussions de comptoir où parfois on s'emporte, mais là, c'est un peu, ça va très loin. On parle de troll parfois, c'est pas pour rien. C'est des gens qui arrivent avec dans l'espace qui leur a donné et qui cassent tout juste parce qu'ils veulent gagner de l'ascendance. Sur leurs interlocuteurs. Les conséquences, elles sont graves. C'est-à-dire qu'en gros, on écrase, on donne des moyens d'expression, on donne des outils d'expression, mais on écrase les personnes qui, justement, ont soit moins de faculté à s'exprimer, soit tout simplement un peu moins d'assurance. Et on promeut des personnalités qui ne sont pas forcément chargées d'un désir philanthropique, etc., etc., mais on va les valoriser. On va valoriser par le nombre de gens qui vont les suivre, des choses comme ça, des personnalités qui, pour le coup, ont des prises de position qui sont parfois un peu limites. La déviance ultime de tout ça, à mon sens, c'est ce qui se passe avec les jeunes qui se font embringuer dans les histoires de Daesh et compagnie. C'est un peu stéréotypé de dire ça, mais il y a une vraie réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on embringue quand même des gens qui ont moins d'indépendance d'esprit vers une radicalisation intellectuelle, parfois, parce que effectivement, on se retrouve valorisé en prenant des positions qui sont radicales. Parce qu'on crie le plus fort et parce que ces réseaux sociaux nous donnent un écho particulier lorsque notre discours est plus fort. Voilà. Je vois qu'il y a une énorme faute, je m'excuse par avance, je n'ai pas forcément revu. Là. Ouais. Non mais ça m'a piqué là, hein. Pardon.
C'était génial, c'est génial, ça repart.
Non, mais ça m'énerve parce que je fais la guerre pour une orthographe, pour pas qu'on utilise, on fasse des fautes sur Internet.
C'est la rose arrosée.
Voilà. Voilà. Alors, sur la suite, sur les réseaux sociaux, je voulais aborder aussi la question de qui sont ces ouvreurs de fenêtres, ces ouvreurs d'espace, comme Facebook, Twitter, par exemple. Moi, je trouve tout à fait légitime qu'on crée des entreprises qui donnent des espaces d'expression. Ça ne me choque pas du tout. En tout cas, je vois l'intérêt. Là où on peut s'interroger, c'est qui sont-elles ? On dévoile énormément de nous-mêmes à des entreprises privées. On dévoile nos goûts, parfois nos opinions politiques, nos réseaux d'amis, nos réseaux professionnels. J'ai l'air de parler que de Twitter ou de Facebook, mais LinkedIn, qui est un énorme réseau professionnel, je peux vous dire que moi, j'ai fermé mon compte il y a quelques temps déjà, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est fou tout ce que je révèle de ma vie à cette entreprise que je connais pas. Je sais pas qui c'est, ces gens-là. C'est une entreprise privée qui veut faire du profit, à qui je donne ma confiance. Enfin, c'était le sujet que je voulais sans vraiment savoir. Sans savoir la légitimité qu'elle a. Pour parler que de ces trois énormes réseaux sociaux qui sont Twitter, qui sont Facebook et qui sont LinkedIn, il s'agit d'entreprises qui sont américaines, donc qui sont sous un code législatif américain. La loi, elle n'est jamais figée, elle peut évoluer. On voit bien qu'on peut avoir quand même des personnages qui sont à la tête de l'État, l'une des plus grosses nations du monde en termes de prégnance politique, qui sont gouvernés, qu'on choisit d'être gouvernés par un personnage quand même assez, pour le moins, surprenant. Qui me dit que les informations que j'aurais confiées à ces entreprises, qui aujourd'hui peut-être me sont, enfin, sont, on va dire, dont la discrétion est relativement préservée parce que, voilà, j'en sais rien, moi, Zuckerberg, il a quand même quelques petits principes derrière lui, même si parfois les principes ont l'air spéciaux aussi. Quand il parle de village global, moi ça me fait des amis partout, parfois je m'interroge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des choses qui sont quand même... On donne des informations sur notre intimité à des entreprises qui sont gouvernées par des patrons qui peuvent changer, qui peuvent être plus ou moins attentifs au respect de la vie privée, mais également... dans un cadre législatif qui, de toute manière, sur lequel on ne peut pas agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en France, je suis citoyen français, je peux agir, puisqu'il y a une représentation démocratique, on est dedans, qui va faire que je peux aujourd'hui dire « je soutiens tel ou tel candidat qui est plus attentif sur l'aspect de la vie privée, qui veut mettre des garde-fous dans mon environnement, aux entreprises qui pourraient... voilà, qui pourrait, on va dire, s'approprier de manière illégitime des informations. Donc, autant je comprends l'action, autant j'aurais volontairement plus confiance dans une entreprise française parce que je sais que je suis citoyen et que je peux agir sur la loi, autant lorsqu'il s'agit d'une entreprise américaine, j'ai rien contre les Américains, bien au contraire. Mais je sais que je n'ai absolument aucun levier. Je n'ai aucun levier. La loi américaine, je ne peux rien y faire. Donc, ces entreprises, si demain, par exemple, effectivement, les États-Unis virent au fascisme ou je ne sais pas quoi, que l'État américain met en place une surveillance généralisée ou impose aux grandes compagnies de révéler l'ensemble des données qui sont collectées par ces entreprises, je ne peux pas agir. Je serai soumis. Alors je sais qu'aux États-Unis, heureusement, c'est une grande démocratie, qu'il y a énormément de contre-pouvoirs, et du coup, j'y vais quand même avec une certaine confiance. Mais on sait que les choses sont fragiles et que les choses peuvent évoluer, et qu'aujourd'hui, je n'ai absolument aucun garde-fou sur l'avenir, et je peux révéler, je peux me voir confisquer un certain nombre d'informations que j'aurais pu révéler aux réseaux sociaux. J'ai mis ensuite intérêt marchand. Il ne faut pas se leurrer, la plupart des réseaux sociaux, ils ne font pas ça, ce n'est pas des associations. Il y a une valeur marchande à toutes ces informations. Il y a un petit slogan qui dit « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». En fait, c'est ça le truc, c'est que quelque part, ces informations, ce que vous révélez, ce qu'on révèle de nous-mêmes aux réseaux sociaux, ça a une valeur. Alors moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, parce que je ne sais pas précisément quelle valeur ça a. La valeur, c'est effectivement, je collecte des informations sur tel ou tel comportement, tel ou tel individu, et après, je les revends. Mais bon, moi, je ne sais pas, si je publie les photos de vacances de ma fille sur Facebook, j'arrive pas trop à savoir quelle est la valeur. Je sais que c'en a une. Bon, en tout cas, les sociétés en tant que telles qui distribuent gratuitement des choses, quelque part, elles ont un retour sur investissement. Et aujourd'hui, je n'ai aucune, en tant qu'utilisateur, aucune lisibilité sur cette valeur. Quand j'achète un produit dans un magasin, j'achète un bouquin, je sais que j'achète un bouquin, il coûte 15 euros. Aujourd'hui, Facebook, quand il revend les informations, mes informations personnelles, mes données personnelles, qu'est-ce qu'ils vendent ? On ne sait pas. Et ça, et du coup, qu'est-ce que j'achète ? Parce que quand j'arrive sur un site, voilà. Donc ça m'interroge, je ne sais pas. On n'a aucune lisibilité sur la valeur marchande qui est révélée par nos informations privées. Réagissez si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Là, dans la continuité de la valeur marchande, la question que je me pose aussi, c'est quelle est l'exploitation de ces données ? On se retrouve assimilé, par exemple, je prends part à la campagne électorale, par mes prises de position, parce que j'ai soutenu Macron contre Le Pen, ou je ne sais pas quoi. Quelque part, ces informations, elles sont indexées quelque part. Elles vont m'identifier sur Facebook, pour ces entreprises, je vais avoir un positionnement politique. Il y a des algorithmes qui sont hyper puissants, qui sont capables de savoir, on a bien vu là pendant la campagne, des graphes qui ressemblaient d'ailleurs à des sondages, qui en fait étaient des algorithmes qui allaient farfouiller sur Internet pour savoir quelles étaient les positions politiques des internautes. On n'est pas encore tout à fait capable, pour ces trackers, ces algorithmes, de savoir que Jérôme Cussy a voté un tel à l'élection. On est quand même capable de savoir que le groupe auquel appartient Jérôme Cussy sur Twitter, par exemple, a voté majoritairement pour tel ou tel candidat. On en est là. C'est-à-dire qu'on est capable de ranger votre opinion politique dans un groupe. Là encore, ça peut faire peur. La politique, enfin, effectivement, la législation américaine change. On veut plus aujourd'hui, on veut déjà plus de musulmans qui viennent aux États-Unis. Demain, on demande à Facebook, dis-moi qui sont musulmans, parce que comme c'est pas marqué forcément sur la carte d'identité, enfin sur le passeport, l'État américain pourrait solliciter les entreprises privées de ce type-là d'informer sur la pratique religieuse de l'un ou l'autre. Ça pourrait exister. Pardon.
Mais aujourd'hui, les groupes politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, c'est des outils militants. Donc quand on rejoint un groupe politique sur Facebook, c'est un petit peu comme faire du tractage dans la rue. Donc on a conscience aussi d'appartenir à un groupe public, où on s'affiche. Et enfin, ça paraît pas insensé que les gens savent que c'est affiché publiquement qu'on soutient un mouvement politique, un candidat, un petit peu comme quand on va militer dans la rue. C'est assez similaire quand même.
Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que il suffit simplement de taper le mot Macron dans son sujet, enfin dans ses 146 là, et puis on peut facilement avec l'algorithme déterminer qu'un tel parlait Macron d'un autre. Et c'est pas seulement les militants,
mais après on peut. Mais les groupes, parce qu'on a des groupes politiques, quand on rejoint un groupe, quand on rejoint France Insoumise, Portail en Marche,
Là par exemple, moi je vois des cas de gens qui n'ont pas pris. Qui n'ont pas d'attitude militante, qui n'ont pas d'engagement militant, qui effectivement ne sont pas agrégés, qui n'ont pas adhéré à un groupe politique, mais qui se retrouvent agrégés par défaut, parce que, à un moment donné, effectivement, ils se sont dit, moi j'ai choisi de voter Macron au deuxième tour, ce qui peut tout à fait être une information à partager, on le partage, mais on n'a pas à être catalogué, on le fait contre son gré, là, on se retrouve catalogué contre son gré. Et pour revenir à l'exemple du tractage dans la rue, si je choisis de tracter dans la rue, je tracte pas avec marqué Jérôme IQ6 sur mon t-shirt. Éventuellement, je vais reconnaître quelques personnes pour pouvoir m'identifier parce qu'elles me connaissent, mais c'est au hasard. Lorsqu'on choisit un soutien politique sur un réseau social, ça, là, on marque Jérôme Icussi est à la France Insoumise, est à la République en Marche.
La forme de militer a aussi changé avec ça. Je pense que les gens qui allaient tracter dans la rue avant, peut-être faisaient partie d'un parti politique et du coup étaient peut-être plus.
Oui, mais.
Étaient catalogués, alors que beaucoup de gens maintenant n'appartiennent plus à des partis politiques, mais vont adhérer à un mouvement en ligne et du coup vont être catalogués comme tels. Du coup, c'est deux formes d'identification différentes, mais qui évoluent avec les formes de militantisme qui changent.
Voilà. Je crois qu'il faut se garder de la paranoïa, là je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand tu parlais de groupe, ton groupe vote d'un bureau électoral, dans mon village, en Normandie, il y a 50 votants, il y a 23 Le Pen. tu sais ce qui se passe, quoi. Ouais. Tu sais ce qui se passe, t'as pas besoin d'aller sur Facebook, et ce sont des données que s'il y a 15 jours, c'était une femme qui avait pris le pouvoir, même l'entreprise française, elle était soumise à la législation et elle aurait, tu vois, donc je pense que on a des dispositifs qui préexistent déjà, en dehors des nouvelles technologies, et avec toutes les dérives potentielles. On n'était pas prémunis avant les années 2000 d'un usage tout à fait fascisant de ces informations, même quand c'était des fiches papier. C'est pas l'usage qui modifie, c'est la technologie qui va décupler. Oui. Je pense que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'on a d'autres outils qui vont démultiplier les possibilités. Pour autant, moi je mets sur LinkedIn que ce que j'ai envie de mettre. Je mets pas les photos de vacances, je mets pas, je mets pas mon âge, je mets pas ce qui me permet d'avoir des visiteurs, parce que si j'avais été mon âge, j'aurais plus personne. Voilà. Donc voilà, il y a aussi les questions du filtrage individuel de ce que tu laisses avoir. Et après, la question des trackers, je pense que c'est la diapo suivante, c'est-à-dire de ce qui est mis sur Internet à ton insu.
Voilà. Alors, je reste quand même. Le petit truc alerte dans ma tête, c'est juste de me dire quand. Par exemple, pour reprendre l'exemple du tractage. Si j'ai milité pour un parti politique en 1990 parce que pris dans un enthousiasme, mais ça je repense à la question du droit de mémoire, mais sur un élan pour rendre service à un copain, pour séduire une fille, je sais pas quoi, si j'ai choisi de soutenir un parti politique pendant 3 jours, un moment dans ma vie, dans les rues de Paris, personne ne s'en souvient. Si j'ai choisi de soutenir un parti...
Sauf la copine en question.
Ouais.
Les RG s'en souviennent. Je peux te dire que ma fiche ou RG... Non, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein.
Oui, mais le Gergel est moins facilement consultable que sur Internet.
Voilà.
Oui, c'est donc, plus facile. Mais, ouais. mais je pense justement que ça pose des questions qui méritaient d'être posées avant.
Et
qui n'avaient pas été posées.
Et la différence essentielle, c'est ce que vous avez dit, c'est quand tu transmets des informations à un service public avec, on va dire, qui est censé être garante d'une certaine intégrité et un désintéressement, espérons-le, économique, c'est pas la même chose que lorsque tu révèles les informations sur ta vie privée à des acteurs privés sur lesquels tu n'as absolument aucun contrôle.
Moi, je suis pas aussi méfiant par rapport au privé. Le privé, il a qu'un pouvoir économique, le public a un pouvoir coercitif.
Voilà. J'ai juste. Il y a quand même. Je dis pas que l'un est blanc, l'un est noir, bien au contraire. Je dis juste que c'est.
Un peu fascisant, je peux te dire.
Ah, bah oui, mais.
Je préfère que ce soit.
Des entreprises.
Que ce soit le gouvernement.
Mais ça, on va pouvoir l'observer même. Enfin, le développement de la République numérique aujourd'hui, avec toutes les données personnelles qu'on va rentrer pour la sécurité sociale, pour les allocations familiales, etc., il va y avoir des regroupements aussi qui vont se faire. Pour mieux surveiller les citoyens dans ce qu'ils demandent comme aide sociale. Donc il va y avoir un catalogue, enfin on va être catalogué en face par l'État cette fois-ci.
Bien sûr.
C'est pas non plus ce qui va se, passer de ces données-là.
Les questions de santé posent des vrais problèmes. Ta montre, elle est connectée, là. C'est une belle montre.
C'est une belle montre qui enregistre, quand je le souhaite, mes déplacements pour savoir combien je fais de kilomètres de vélo par an.
Eh bien, ne t'inquiète pas que ta banque, quand tu vas te demander un crédit, elle va s'adresser à ton...
À TomTom.
À TomTom, pour savoir combien tu fais de pas.
C'est exactement ce qui me fait peur, ouais.
Ouais, mais ça, c'est... Oui, mais c'est ça, il ne faut pas porter de montre connectée. Oui. Je pense que... Bon, est-ce que par rapport à la diversité culturelle.
Alors, j'ai fait un petit. J'ai fait une petite remarque là-dessus. Voilà. Mais c'était par rapport au fait que. La diversité culturelle, excuse-moi. Je l'ai abordé à un premier niveau, au niveau des réseaux sociaux, sur le fait que on tente à exacerber ces prises de position, et du coup rejoindre un comportement finalement un peu stéréotypé par rapport à un groupe. Moi, je l'ai vu avec les militants indirects sur Internet, c'est-à-dire que on devient radicalement engagé dans une direction. Politique. J'ai eu le sentiment, là, en regardant la campagne cette fois-ci beaucoup sur Twitter, que des gens que je suivais, moi j'habite à Montreuil, donc je connais 2-3 Montreuillois que je regarde, qui avaient l'habitude de publier des photos de leur soirée, de leur café, enfin du café qu'ils préfèrent à Montreuil, passer à une attitude progressivement de militants, mais complètement stéréotypés. C'est-à-dire que des gens dont je ne soupçonnais même pas l'engagement politique se sont retrouvés à porter un discours, à reprendre des sentences politiques. Je pense particulièrement à quelques connaissances qui se sont engagées avec la France insoumise, par exemple, à reprendre les mots de Mélenchon de manière... Comme si c'était leur propre parole. Et donc là, si tu veux, en parlant de diversité, de gens qui avaient certainement pour qui j'avais une estime, entre guillemets, parce qu'ils avaient, ils parlaient de leur vie tous les jours, de manière parfois assez croustillante, on va dire, se sont mis à reprendre un discours politisé qui était complètement stéréotypé, quoi. Mais ça m'a assez surpris, ouais. Donc sur cette question de diversité, tu vois, c'est-à-dire qu'on reprend, c'est très facile d'acquérir des codes de communication qui sont plus des codes. C'est plus des codes personnels, c'est des codes qui nous sont transmis.
Ouais. Est-ce que tu dis, il y avait une diapo là sur les CV?
Oui, alors ça, voilà, c'est pour ça. Là, je voulais concentrer la partie, mais après on peut mélanger, hein, c'est pas grave. Mais plutôt sur l'axe réseau social. Et parce que, en fait, l'outil, enfin, là où je voulais en venir, c'est là où ce que je voulais décrire, c'est justement que les réseaux sociaux construisent une cartographie de nos liens. Et ça, on n'a pas la main là-dessus. C'est ça qui me dérange le plus. C'est-à-dire que progressivement, si par exemple je suis lié à mon cousin sur un réseau social, sur Facebook, parce que c'est mon cousin. Et que ça me fait plaisir de regarder les photos de ses enfants à la plage. Si mon cousin a un ami qui est quelqu'un de peu recommandable, parce qu'il a, moi j'y suis pour rien quoi. Enfin, je veux dire, je vais quand même tôt ou tard me retrouver cartographié sur internet comme lié à cette personne peu recommandable. Prendre un exemple très très caricatural, mais et ça là aussi on n'a pas le moyen à ce moment de briser. Moi j'ai par exemple voilà, je peux être lié indirectement à une personne que je n'estime pas du tout, mais finalement les algorithmes d'internet vont quand même me cartographier comme lié à cette personnalité. Et là c'est vrai que ça c'est une interrogation aussi pour moi. Mais j'ai pas le moyen de dire non attendez. Je ne suis pas lié à cette personne. De la même, un journaliste qui enquête sur telle ou telle personne, qui est un gangster, qui est un manipulateur en tout genre, peut se retrouver cartographié comme lié à cette personne, alors qu'en fait, il fait juste un travail de journaliste. Là aussi, ça m'interroge.
Oui. Enfin, ça, c'est des pratiques policières.
De base.
C'est fiches S, oui, c'est ça.
Qu'en est-il du droit à l'oubli par rapport à ce que...
Voilà, bah ça c'est une... C'est une...
Et la neutralité du net, je ne sais pas exactement ce que...
Aujourd'hui, la réglementation, elle est simple, il n'y en a pas. Donc il y a un serpent de mer qui revient en ce moment, qui effectivement garantit la neutralité du net, mais là, avec l'élection de Trump, par exemple, il y a des choses qui ont été construites et qui ont été complètement déjà démolies. Hein.
Mais c'est quoi exactement la neutralité du
net ? La neutralité du net, c'est un sujet assez particulier qui est de dire, lorsque j'accède à une donnée, toutes les données ont la même priorisation dans les tuyaux d'Internet. C'est-à-dire que, par exemple, le rêve ultime d'une entreprise comme Netflix, c'est de dire, quand il s'agit d'une information pour Netflix, eh bien, comme ils ont un problème, puisque vous le savez, le principal problème pour Netflix, c'est que les débits soient suffisants pour que les films, lorsque les gens les regardent sur leur ordinateur, soient pas hachés, soient de bonne qualité. Donc, lorsque les tuyaux sont trop petits, eh bien, leur rêve, c'est qu'on dise, même quand le tuyau est trop petit, j'en garde la moitié pour moi. Il y en a la moitié pour moi. Ce qui veut dire que l'autre moitié, elle doit se partager entre l'ensemble des services. Là où ça devient complètement pervers, c'est que on voit bien l'intérêt, on va dire, les tuyaux sont parfois limités, surtout lorsqu'on est connecté à des réseaux un peu éloignés. Mais au final, qu'est-ce qui garantit que, on va pas fermer le robinet sur tel ou tel site parce que on a décidé que finalement c'était pas du tout prioritaire, mais tout simplement parce que politiquement il est pas prioritaire. Enfin, on n'a pas envie que les idées se diffusent. Voilà, c'est ça la neutralité du net, c'est de dire que quel que soit le contenu, eh bien. Les tuyaux sont les mêmes pour tout le monde et il n'y a pas de priorité parce que c'est l'Elysée, c'est le site de l'Elysée ou c'est le site de Tartampion qui est un blogueur influent quoi.
Et c'est garanti ça ou c'est...
Alors aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a une commission qui, il y a des outils qui se mettent en place et des organismes qui se construisent, particulièrement aux États-Unis, pour la garantir. Mais sur le papier, aujourd'hui, il n'y a rien. Et le peu qu'il y a eu, là, en tout cas, aux États-Unis, ça a été piétiné. Quoi.
Ça fait quand même l'objet d'un combat maintenant de longue date avec des organisations comme la Quadrature du Net en France, par exemple. Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il faut dire quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place au niveau français ou au niveau européen, par exemple. Je ne connais pas dans le détail les mesures juridiques, mais... C'est un combat dans lequel il y a parfois des gains, parfois des pertes. Et je suis d'accord qu'on est plutôt en ce moment dans une phase de perte de certains acquis. Mais on peut pas dire quand même qu'il n'y a rien du tout. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été posées, je pense au niveau européen par exemple, pour garantir ou en tout cas poser le principe de la neutralité du net. Donc après, ça ne garantit pas tout, bien entendu, et c'est extrêmement compliqué, mais c'est vrai qu'il y a ça. Par contre, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelques mois maintenant, un des premiers décrets qui a été pris par Trump, ça a consisté à annuler l'interdiction de commercialisation des données personnelles de manière non autorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données personnelles sont effectivement... Voilà, là, on a un exemple où on voit bien très clairement que une loi qui était protectrice des données personnelles a été complètement annulée. Et aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, même par rapport à ce que tu disais, sur l'usage des algorithmes, ce qui est impressionnant, moi ce que j'ai trouvé impressionnant dans les derniers mois, c'est le fait que, très concrètement par exemple, les campagnes électorales qui ont été conduites, ce que permet aujourd'hui la technologie et ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, ça va au-delà même de l'identification dans un groupe. C'est que Trump aux États-Unis, mais en Angleterre et en France aussi, il y a eu des achats de services qui consistent à dire, au fond, ce que j'achète comme service en tant que parti politique, c'est la possibilité d'identifier ce que je peux apporter comme information à chaque personne sur tel sujet. C'est-à-dire que c'est pas seulement dire je sais que tu es membre de tel parti, c'est pouvoir dire cette personne-là, si vous voulez la toucher, sur la question de l'éducation, voilà ce qu'elle pense. Sur la question... ou alors, le point sur lequel vous pouvez travailler avec elle, c'est la santé, l'éducation, les armées, la sécurité, ou que sais-je. Et donc, ça permet aujourd'hui, effectivement, aux partis politiques, et c'est ce qui a été fait aux États-Unis, c'est ce qui a été fait aussi en France, dans la période électorale qu'on vient de traverser, c'est directement d'envoyer une information ciblée à la personne, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est sur ce sujet-là que le parti politique va pouvoir la toucher. Donc on a une technologie politique qui est extrêmement élaborée de ce point de vue-là.
J'imagine qu'on a tous fait l'expérience pendant la dernière campagne. Moi j'ai reçu des mails de listes où je ne m'étais jamais inscrit.
Et sur des sujets auxquels on est en fait sensible.
Tout à fait.
Après,
si tu peux peut-être conclure pour qu'on passe ensuite la parole à...
Ok, rapidement, d'accord. Juste, dans la même veine, hein, donc je voulais survoler je vais regrouper un peu les deux regards que je voulais porter, un sur les moteurs de recherche et l'autre sur les trackers, et faire plus vite effectivement. Donc en gros, la grosse différence par rapport aux réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on peut pas les approcher exactement de la même manière, c'est que là le périmètre est illimité. C'est-à-dire que finalement, les moteurs de recherche, ils indexent des informations sans limite, sans votre accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une prise de parole publique, et qu'elle a été présente, elle a été marquée à un moment donné quelque part, cette information va être indexée. Tapez votre nom dans Google, vous serez incroyablement surpris des informations que Google sait de vous.
Enfin, moi, c'est taper mon nom. Tu l'as essayé?
Non, j'ai pas tapé le tien, mais...
Je suis un boxeur canadien.
Ah, d'accord. Bon, bah, alors, en plus, quand t'as un homonyme... Donc, ça... ça trouble beaucoup, je trouve, par rapport aux années merveilleuses que nous avons connues avant Google, c'est-à-dire avant les années 2000. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur Internet, enfin, lorsque vous cherchez un boulot, par exemple, ou que moi je l'ai vécu en faisant une. J'avais fait une demande de subvention pour une association, vous êtes googlisé. C'est-à-dire que votre interlocuteur va, avant la réunion, chercher à se renseigner sur qui vous êtes et ce que vous faites. Et là où ça pose aussi une interrogation, c'est si, effectivement, vous avez des goûts particuliers, une sexualité minoritaire, vous avez des goûts politiques, enfin des intérêts politiques qui sont marqués. Et à ce moment-là, tout ça va se retrouver, un engagement associatif, tout ça va se retrouver facilement sur Internet. Et c'est pas au goût de beaucoup d'employeurs. Et du coup, on a, et c'est là où on rejoint la diversité, on a des changements comportementaux ces dernières années qui sont assez spectaculaires, où les gens se recréent, et on le voit sur LinkedIn, et c'est exactement ce que tu viens de dire, on ne donne que les informations que l'on souhaite donner de soi-même. C'est assez sidérant de voir que les gens refusent. Je l'ai vu, parce que là encore, moi je suis milite dans un parti politique, je ne veux pas vous raconter toute ma vie, mais des gens qui refusent de s'engager politiquement, pourquoi ? Parce qu'ils sont en recherche d'emploi actuellement, j'ai une amie qui est concernée directement par le problème, et qui ne veut absolument pas se pénaliser sa candidature en ayant pris position dans un parti politique. Donc là, on arrive à des trucs, à des comportements où les gens ne se dévoilent plus, enfin ne s'engagent plus surtout, pour éviter de dévoiler des informations sur eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas la maîtrise, là encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils qui nous permettent. Il y a un pseudo outil qui permet de dire à Google. Respecter mon droit de mémoire, enfin mon droit à l'oubli, pardon, pas mon droit de mémoire, mon droit à l'oubli. J'ai été militant du Front National en 1995, mais j'ai bien changé depuis. J'ai rencontré une femme formidable qui m'a fait changer d'idée, et aujourd'hui, je suis militant écologiste. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors que là, je trouve que effectivement, il y a un abus. Et surtout, ça induit des comportements chez les personnes qui peut avoir des conséquences sur la société qui sont dommageables.